Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Voilà Contre-Histoire. Aujourd'hui, on va marquer Contre-Histoire en célébrant la rentrée, les rentrées, celles que j'ai faites et que je regrette tant. Et en pause musicale, on célébrera Dina Massa Amini, avec un vrai récital de femmes, de vie et de liberté. Eh bien, savez-vous, des profs heureux, ça existe. J'en ai rencontré. On était tous et toutes amoureux de ce métier dont on rêvait depuis l'enfance. On voulait tous enseigner comme ceux qui nous avaient donné la foi, qui nous avaient appris à apprendre. On était beaucoup à vouloir enseigner comme on voulait élever nos propres enfants, en opposition souvent, avec l'éducation parfois si rigide que nous avions peut-être reçue nous-mêmes. Nous étions les enfants de 68. On voulait oublier ceux qui, se croyant investis de l'autorité par leur titre ou seulement par l'estrade et le bureau, ceux qui faisaient de l'autorité à coups d'humiliation, de coups de gueule et de sanctions souvent disproportionnées ou collectives quand leur vigilance était en défaut. On voulait abattre les peurs, rendre aux enfants et surtout aux adolescents que nous allions accueillir la confiance en eux, cette clé de leur avenir. Et puis d'abord, l'autorité, qu'est-ce que c'est que ça? Il devrait y avoir un moyen de tester parmi les candidats à de telles responsabilités ceux qui recherchent la tranquillité du fonctionnaire, ceux qui croient aux longues vacances, ceux qui croient à une respectabilité qu'ils risquent de ne pas mériter, ceux qui veulent seulement écraser plus faibles qu'eux. Ça existe. L'antiprof, c'est celui ou celle qui impose son savoir, son pouvoir, qui juge, et pire, qui humilie. Mais une seule autorité est reconnue par les élèves et les étudiants. C'est l'autorité de la compétence, et il n'y a rien d'autre. Elle ne se construit que par la démonstration efficace, confirmée par la compréhension et la validation par les élèves. Mais le prof ne peut pas être omnipotent. Il peut se tromper. C'est humain, ça. Ça ne remet pas en cause son travail ni sa sincérité. Et on fait tous des erreurs qu'il faut reconnaître. Si on les reconnaît, si on les corrige au plus tôt, ça renforce la confiance que les élèves ont dans leur prof. Parce que ce n'est pas facile de reconnaître ses erreurs, en public surtout. Les élèves le savent bien et nous en sommes reconnaissants. Avec mes amis, on croyait avoir les recettes pour se lancer dans ce métier de l'avenir, ce métier d'acrobate de la psychologie. Alors d'abord, bien sûr, il s'agit de respecter chacun et chacune de ces jeunes, rebelles ou complexés. Alors, en l'occurrence, le vouvoiement est très convaincant, même si le tutoiement semble plus chaleureux. Mais il a un usage à sens unique qui implique une hiérarchie qu'il faut abolir pour communiquer vraiment et utilement. Et puis, est-ce que le tutoiement n'est pas la forme admise du paternalisme est donc déjà de l'abus de pouvoir. Il arrive, parfois, que les élèves demandent le tutoiement auquel ils sont habitués et qui peut-être les rassure le jour de la rentrée et du saut dans l'inconnu. Mais ce respect que réclament tant les élèves, entre eux et partout, ce respect est multiforme. C'est en particulier, aussi bête que ça puisse paraître, c'est le salut, les saluer quand on entre en classe. Est-ce qu'on y pense toujours ? Un « bonjour tout le monde », souriant, recevra des réponses spontanées, joyeuses, aimables. À ce bonjour à la collectivité, il m'a été répondu par un farceur « bonjour toute seule !» auquel j'ai pris le risque de répondre en cachant une vraie émotion. « Avec vous tous, je ne suis jamais toute seule. » Rire et sourire, c'était parti pour une heure d'attention et de camaraderie. Et puis, écoutez vraiment ce que disent les enfants et les adolescents, c'est capital, absolument. Ils et elles sont à l'âge où on a besoin de s'exprimer, où on apprend à le faire. C'est la marque de respect minimale et obligatoire. On écoute quelqu'un qu'on trouve digne d'être écouté. Et c'est valable, et même impératif, dans les deux sens. Et il convient donc de répondre ou commenter ces propos que l'enfant a eu parfois bien du mal à formuler. Lui répondre pour prouver à son auteur qu'il a de l'importance. Celui que l'on écoute ne se sent plus seul au monde et il écoutera attentivement lui-même en construisant les bases de la meilleure transmission des messages, même les plus complexes, en philo, en maths, en sciences.
Sous le marronnier du jardin, trois générations réunies. On a déjeuné, on est bien au soleil de l'après-midi. Grand-mère, sans élever la voix, me raconte comment autrefois elle a rencontré son mari en 1900 en Italie, dans une assemblée militante. Était déjà elle aussi, celle qu'on insulte et qu'on envie, une femme, une combattante, c'est la même lutte aujourd'hui. Sous le marronnier du jardin, trois générations réunies. On a déjeuné, on est bien au soleil de l'après-midi. Ma mère à son tour se souvient de ce monsieur si beau, si bien, qu'elle avait épousé naïve. Ce sont des choses qui arrivent et qu'elle a plaquées un matin parce qu'il trouvait déplacé une femme aille manifester pour changer le monde et la vie. C'est la même lutte aujourd'hui. Sous le marronnier du jardin, trois générations réunies. On a déjeuné, on est bien au soleil. Thank you. suis de même race. Je ne me tiens pas à ma place. Je n'attends pas que ça se passe. Quand il faut, je prends la parole. Quand je ne l'ai pas, je la vole. Il n'y avait pas besoin de le dire. On s'est contenté de sourire. Toutes les trois n'ayant l'air de rien. Sous le marronnier du jardin.
C'était Francesca Solville et vous y aurez droit encore. Un autre aspect de ce respect, de cette structure basique de la communication, on peut croire échapper à une situation embarrassante en faisant semblant de ne pas avoir entendu une insolence. Ce qui ne résout pas le problème, mais à bas bruit d'abord, puis crescendo, l'amplifie redoutablement, jusqu'à obtention du but recherché par le gamin ou la gamine, mal écouté à la maison, ou qui a d'autres besoins de se singulariser. Le but recherché étant bien sûr le chahut généralisé. Il y a toujours un moyen de décourager l'élève qui veut saboter un cours, en sabotant, avec humour, son plan machiavélique. C'est comme ça qu'un jour, l'élève la plus brillante de sa classe m'a poussé dans des retranchements que je n'aurais jamais imaginés. Il s'agissait, dans ses cours de commerce, de préparer une vente d'un des produits les plus difficiles, une paire de chaussures de ville. On raconte, dans les écoles de commerce, que celui qui sait vendre des chaussures saura vendre un Airbus. Je rappelle cette petite promesse, propre à motiver les plus récalcitrants, en précisant que si cette vente est si difficile, c'est parce que l'être humain n'est pas, comme on le croit, construit de façon symétrique et qu'il convient de faire essayer les deux chaussures, même si d'autres clients attendent, même si notre acheteur est pressé. Sinon, il risque de revenir avec des ampoules et ses chaussures, alors invendables, parce qu'il n'aura pas essayé les deux le jour de l'achat. « C'est vrai !» s'exclame Fabienne. C'est comme les testicules, il n'y en a pas deux pareils. Sans doute, Fabienne, vous devez avoir une sérieuse expérience dans ce domaine, car vous ne parlez jamais à tort et à travers. Vous avez fait des statistiques ? Aucune sanction, bien sûr. La gamine n'ayant été ni grossière ni menteuse. Ni Fabienne, ni aucun autre leader de cette classe dynamique n'a plus tenté sa malchance sur ce registre, du moins, jusqu'à la fin de l'année. C'est dommage, mais dans ces cas d'agression caractérisée, il faut être le ou la plus forte. Mais jamais d'écart de langage. Le film « Entre les murs » raconte un chahut pendant lequel un prof, à bout d'arguments, insulte une jeune fille, laquelle lui rappelle paisiblement la définition de l'injure proférée, pétasse, en mettant le prof devant sa responsabilité et son erreur pédagogique. Le prof avait seulement manqué d'humour, par la fatigue, sans doute. Car l'enseignement, c'est une pièce de théâtre que l'on joue différemment 15 ou 20 fois par semaine avec souvent le même public. Or, ce théâtre est un sport de haut niveau. C'est comme la radio. Il faut absolument être en bon état physique. Sinon, eh ben, les élèves sont des enfants, surtout les ados, qui sentent nos faiblesses et qui essaient d'en profiter. C'est humain. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Quelques meneurs et meneuses voudront prendre la vedette sur la scène du théâtre. C'est rarement méchant. C'est pour se prouver, et surtout prouver aux copains, qu'ils existent. Exister à leur âge, c'est la grande question. C'est être remarqué, écouté, applaudi. Surtout quand on est au fond pas bien sûr de soi, ou même pas du tout. On essaie par tous les moyens de se rassurer. Tant pis pour l'adulte. Bien sûr, le tac au tac, arme absolue contre l'insolence, ça demande de solides munitions. Il faut lire Cavanna, Pierre Dac, Frédéric Dard, dit San Antonio, tout le monde sait ça. Écoutez les sketchs d'Anne-Marie Carrière, Guy Bedos, Charlotte de Turckheim, Vincent Dédienne, Muriel Robin, Guy Carlier, Blanche Gardin, Florence Foresti et quelques autres jeunes femmes en particulier, nouvelle promotion de l'humour vache et défensif. On peut faire entre collègues des jeux de rôle pour s'entraîner. Mais hélas, je ne me souviens pas qu'on pratique ce sport dans ce but précis en école normale. Ce serait pourtant bien nécessaire. Mes souvenirs sont certes lointains, mais si l'éducation nationale s'était mise à cette pratique indispensable pour sa formation, on devrait s'en apercevoir. Et les candidats à ce si beau métier devraient être un peu plus nombreux, alors qu'on sait bien que la peur est une des raisons les plus graves de la désertification de nos rangs. Quel malheur! On peut être si heureux au milieu de gosses qui nous aiment. Et plutôt que de se cramponner après les traditions sclérosantes, je crois, dès la rentrée, qu'il faudrait abattre les barrières et hiérarchies. Et pour ça, annoncer ses propres failles, qui sont souvent aussi les leurs. Moi, c'était les maths. En toute simplicité, personne n'est parfait. Alors, s'établit d'emblée un terrain d'entente, et mieux, de complicité. Nos faiblesses sont de vrais dénominateurs communs, des facteurs égalitaires et sûrs qui humanisent les apparences les plus rébarbatives.
Si femme était là, face à la porte en fer, l'une restait debout, 5 assises par terre, 8 enfants étaient là, face à la porte en fer, et leur bouche ignorait encore le sourire. 6 femmes étaient là, face à la porte en fer, et des regards de djinns brillaient parmi les langes. 6 femmes étaient là, face à la porte en fer, leurs cheveux avec soin noués comme un secret. 8 enfants étaient là, face à la porte en fer, l'un d'eux gardait croisé les paumes ses mains. Un gendarme était là, face à la porte en fer, longue et la faction. La chaleur est enfer. Un cheval était là, face à la porte en fer. Un pauvre canasson, sur le point de pleurer. Un vieux chien était là, face à la porte en fer. Il avait le poil jaune et le museau très noir. Il y avait dans les paniers des poivrons verts, du charbon dans les sacs, de l'ail dans les besaces. Ça était là, face à la porte en fer. 500 hommes de l'autre côté, noble champ. Et si tu n'étais pas l'une de ces six femmes, moi j'étais à coup sûr parmi les 500.
Et c'est à nous de rassurer les angoissés sur leurs capacités. Et sans attendre, le jour de la rentrée, on fait rédiger des fiches où les élèves mettent ce qui leur semble important de nous faire connaître, et en particulier leurs expériences de travail pendant les vacances. On découvre parfois là l'origine de leur orientation. Une petite avouée. « Je sais rien faire. » J'ai jamais travaillé pour de vrai. Je voulais en savoir plus et questionner. Mais vous avez bien fait quelque chose pendant les vacances. Des cahiers de vacances. Fou rire général. L'année commençait bien. Non, j'ai gardé des bébés. Et vous trouvez que ce n'est pas du travail? Ben, c'est pas difficile, c'est pas important, et c'était pas payé, c'était mes neveux. Mais ça peut être une question de vie ou de mort. Vous trouvez que ça n'a pas d'importance. Les parents vous ont confié ces petits, qui sont ce qu'ils ont de plus cher au monde. Ils vous ont jugé sérieuse, digne de leur confiance. Ils vous ont confié la vie de ces petits, de leurs petits. Et vous trouvez vraiment que ça n'a pas d'importance. Ce qui est très difficile avec les bébés, c'est qu'il faut les surveiller tout le temps. Un malheur est très vite arrivé. Vous avez bien fait attention à tout, comme il le fallait. Vous êtes quelqu'un de formidable. Silence dans la classe. Et la frémousse de la petite s'éclaire peu à peu en un joli sourire. Elle sait maintenant qu'on peut avoir confiance en elle, qu'elle peut avoir confiance en elle-même. Il nous faudra aussi dénicher les talents cachés, les laisser s'épanouir. Le gamin qui dessine pendant le cours peut très bien suivre en même temps. Et s'il ne suit pas beaucoup, c'est peut-être que le prof est trop fatigué pour faire le one-man show ou le one-woman show attendu. Et ce dessin, il peut être très intéressant. J'avais la chance de faire des cours de publicité. J'y ai recyclé pas mal des œuvres des élèves les moins attentifs et ça a donné parfois de jolis résultats. Et ça peut être aussi formidable de déléguer et de responsabiliser les élèves. Je me souviens de Rachid qui était très éveillé, qui comprenait tout de suite qui finissait cette épée en un tournement et qui s'ennuyait après. Il demandait après, timidement, quand il m'avait rendu sa copie, s'il pouvait finir tel devoir pour un de mes collègues, ce que j'acceptais au début. Mais comme ça se reproduisait régulièrement, je craignais fort que les autres sortent aussi leurs devoirs d'anglais ou de maths en laissant choir mes TP. Et je demandais de l'aide à Rachid pour gérer les TP de ses camarades, puisqu'en général, sa propre copie était parfaite. Le voilà, prof auxiliaire, allant d'un groupe à l'autre, revenant vers moi parfois pour me conter ses trouvailles. Je n'ai plus de ses nouvelles, mais je ne serais pas étonnée qu'il soit prof. Stéphane, lui, était un cas très redouté par tous les collègues. Car comme Rachid, il était très brillant, mais instable, et trop perdu en BEP alors qu'il aurait dû suivre la filière générale. Il possédait un don particulier de calcul. Comme je formais aussi des caissiers et des caissières, je devais les entraîner au calcul mental. Les séances se déroulaient comme un jeu. Les élèves, debout en rond, attrapaient au vol la balle que je lançais à la victime choisie, qui devait répondre à la question. Sur 100 euros, pour un achat de 72,36 €, vous rendez combien ? La valeur du billet et le montant de l'achat changeaient bien sûr à chaque élève. Comme cette canaille de Stéphane m'avait fait plusieurs fois le coup de répondre exactement à la place de son copain interrogé, qui cherchait toujours, j'ai fini par lui confier la balle et le privilège de soumettre ses camarades à la question. Ça lui a beaucoup plu, lui qui comptait plus vite que moi. Et quand il m'a lancé la balle et que je me suis trompée, on a passé un moment sympa dont les enfants n'ont pas abusé, tellement on était bien. Et puis, en dialoguant, on valorisera les élèves. Je me suis vite rendu compte qu'il fallait surtout pas dire non pour condamner un point de vue différent, en faisant taire l'élève. Mais dire plutôt « oui, et puis il y a aussi… » etc. telle réponse capitale qu'on associe à la proposition de l'élève, pour autant, bien sûr, qu'elle ne soit pas contraire à la question. Et si la réponse obtenue est plus éloignée, on dira « peut-être, et puis il y a encore ceci », etc. Ou « je n'y avais pas pensé, et il y a en plus la possibilité d'inclure les idées de la plupart des jeunes qui ont si peu la parole. Car voir insérer son idée dans le résumé final d'un cours, c'est la grande victoire pour un enfant timide et angoissé. On prendra soin aussi de révéler à chacun et à chacune ses richesses personnelles que parfois il ignore, les bouleversements de la vie ayant quelquefois étouffé la culture familiale. Ainsi la petite Nadia, qui ne comprenait pas qu'avec mon nom Séfarad, je pouvais les aimer, elle et toute ma classe, plus qu'à moitié maghrébine, et si joliment bariolée, du blond vénitien au noir somalien. Nadia, si douée pourtant, la plus jeune et la meilleure élève de sa classe, qui ne savait pas ce que l'Occident et le monde entier doivent à la médecine, aux mathématiques et aux autres sciences arabes.
Le plus beau de moi n'est pas dans ma peau. dans la rocaille adoucie de lièvre. Mais dans le soleil, la menthe, l'air chaud, le plus beau de moi vit dans la lumière. De moi n'est pas dans ma peau. Mais s'endort au soir, flamme sans alarme, brûlant longuement au profond de l'eau. Le plus doux de moi. Pardon, messieurs, dames, mourant de vouloir le monde plus beau, le meilleur de moi me déchire là. Chante pour vous, frères de la terre, en rêvant toujours plus haut que le grand, ainsi que le font les fleurs populaires.
Mais à mon avis, la première et la meilleure recette, c'est l'amour des enfants. Voir le regard d'un enfant qui s'éclaire, quand tout d'un coup, il ou elle a compris, quand enfin, il ou elle a réussi la maquette qui sera la pièce maîtresse de son dossier d'examen. Et le regard qu'il vous porte, cet enfant-là, à ce moment-là, ça vaut toutes les plus belles inspections. Je vous garantis. Dans les collèges et les lycées, on nous confie des enfants au moment le plus délicat de leur croissance. On peut les côtoyer 2 ou 3 ou 4 ans quand ils arrivent avec leurs 11 ans pataud ou leurs secrets problèmes de puberté. Est-ce qu'on se rend bien compte de leur fragilité, de la gravité de nos erreurs ? On travaille avec des êtres humains en construction. Béton frais, dit-on, si extrêmement fragile, où toute blessure marque pour longtemps. Je crois qu'on dit ciment frais, d'ailleurs. Béton, c'est trop dur pour des enfants. Mais le bonheur d'un prof et de ses élèves, ça vient aussi des conditions de l'enseignement. Vaste question qu'aucun gouvernement ne prend la peine de traiter. Vraiment, et de moins en moins. Les imbéciles font encore des gorges chaudes en ironisant sur ce qu'ils croient connaître, la 20aine d'heures de cours hebdomadaires, ou même les 18 ou 16 heures hebdo, et les si longues vacances. Pauvres gens, ceux-là ont-ils jamais rencontré vraiment un prof? Ont-ils jamais vécu à proximité ou avec un prof? A-t-on une notion précise de la proportion de profs divorcés qui n'ont pu se résoudre à faire passer leur vie de couple avant les besoins de ces gosses, qui n'ont pas demandé à naître, mais dont on porte pourtant la responsabilité de leur ouvrir les portes de la vie active, comme on dit. Et on arrive au dilemme du prof qui élève seul ses propres enfants, en se partageant inégalement avec les enfants des autres, leurs paquets de copies, les préparations, les conseils de classe et de discipline de plus en plus, lesquels posent des problèmes bien au-delà du programme à boucler. Et les sujets d'examen à faire, on n'a pas idée de ce que ça représente, ça, comme responsabilité. Les stages d'élèves à contrôler rigoureusement, même si les imbéciles y voient des heures de cours qui sautent. J'en passe, et des pires. Et les inspections. J'ai pas eu de chance, moi je perdais complètement mes moyens en inspection. L'inspecteur, je veux dire, il essayait pas de savoir pourquoi. Et j'étais sabrée terriblement. Ce qui fait que j'ai terminé ma carrière, comme on dit, très tristement et bien avant d'avoir atteint le dernier échelon. Mais ça fait rien. Et ces ministres successifs de l'éducation nationale qui croient régler le manque de profs et la triste modicité de leur salaire en leur proposant des charges supplémentaires dont le niveau de rémunération ressemble tristement à une aumône. Quand comprendra-t-on que l'enseignement est une vocation, qu'il y faut de la passion et que ça impose des conditions particulières? Tout ce que j'ai pu faire de bon, c'était avec 15 élèves pour cette section de lycée professionnel particulière, dont personne ne voulait et qu'on m'avait confiée à cause de mon ancienneté. Quand j'ai pris ma retraite, la collègue qui a pris mon poste a vu ses effectifs passer à 24 élèves. Et depuis, ça a empiré. Dans ces conditions, ce n'est plus de l'enseignement, c'est du massacre. Comment accorder à l'enfant malheureux, isolé, qui vit dans des conditions souvent précaires, comment lui accorder le temps d'écoute et de recherche dont il a besoin? Comment régler efficacement les problèmes de stage où il faut tout contrôler à distance? Quelle est la vraie charge de travail d'un prof? En tout cas, ni les 16, ni 18, ni 21, ni 25 heures par semaine, jamais, mais bien plus du double et même du triple. Et on le fait de bon cœur, de très bon cœur, passionnément pour tout dire, quand on voit les résultats que nous offrent nos petits et nos grandes. Mais ça ne peut pas se faire avec une vie conjugale ordinaire et des petits à la maison. Pourtant, l'enseignement n'est pas un sacerdoce. On doit pouvoir l'exercer en menant en même temps une vie personnelle équilibrée. Je crois que l'enseignement, c'est un art. Et quand on empêche un artiste d'exercer son art, il devient fou. Alors pourquoi ne pas lui donner des classes de 15 élèves et des horaires de 12 heures comme en fac, je crois, quand les résultats sont si heureux? Ça coûterait moins cher que l'EPR ou les autoroutes inutiles, tandis que nous sommes en train de sinistrer si gravement notre système éducatif qu'on devient la honte de l'Europe. Thank you.
femme barricade au-delà des ans, femme barricade pour tous les mendiants. De la butte rouge au bagne là-bas, pour cette commune que je porte en moi, comme une blessure, comme une blessure. Louise Michel d'un rêve présent, Louise Michel d'un autre printemps. De cerise noire rue des Insoumis, femme de révolte et de graffiti, gravée sur des murs. Symbole de nuit pour les Versaillais, symbole des femmes qui se sont levées. Tant de cris jetés pour la liberté dans ce monde clos qu'on nous a bradé au vent des ordures, au vent des ordures. Ce matin sur un Paris mort, des femmes refont un coin du décor. Une autre parure. Louise Michel d'un autre regard, Louise venue d'une autre mémoire. Il me reste encore des mots en aller, des bribes de vie que je chante. Comme une blessure, comme une blessure, comme une blessure.
Nous sommes des artistes, si. Telle cette fada qui faisait ses interrogations écrites en forme de mots croisés, où, selon les séances, il fallait trouver le mot ou sa définition. Et les interrogations écrites tant redoutées, comment les transformer en autocontrôle, en approfondissement personnel et en mise à jour automatique des cahiers et des classeurs? Eh bien, en formulant des questions assez précises dont l'élève retrouvera les réponses dans ses dossiers, dont il aura alors la libre consultation, sans fraude aucune. C'est l'interro avec le cahier. C'est un peu ce qui se fait dans l'enseignement supérieur. Alors pourquoi penser que les élèves du secondaire n'en seraient pas capables ? Ils y plongent, avec incrédulité d'abord, rigolade ensuite. C'est particulièrement savoureux de se promener dans la cour de récréation après une interrogation de ce genre. Il était bourré, le prof, hein. On avait nos cahiers, il disait rien. Il nous a même dit de prendre nos cahiers. Et enfin, ils avaient un bel appétit pour trouver toutes les réponses. La question de cours sera alors bien retenue, puisque d'abord bien suivie en classe, soigneusement notée ou enregistrée pour éviter toute panne au contrôle, ce qui offre la sérénité garantie au prof pendant la leçon. Laquelle leçon sera à peine nécessairement relue à la maison, mais efficacement retrouvé et reporté sur sa copie pendant l'interro. Alors évidemment, après avoir écouté et lu, relu et surtout écrit le cours deux ou trois fois avec ce système, forcément, cette question de cours, il la saura. Plus de mémoire passoire, plus besoin de copier sur la voisine, plus besoin d'anti-sèche avec les risques assortis. Tous les tustes sont dans le dossier, en clair et net et complet, si on a bien suivi le cours et soigné sa prise de notes. L'élève reprend confiance en lui, en son investissement personnel. Résultat garanti. Et le prof économise un peu de son temps, en limitant les contrôles de dossier à quelques coups d'œil aléatoires, au lieu de rentrer chez lui avec des dizaines de classeurs dans sa voiture. Ce qui lui permet de préparer le prochain contrôle sous forme plus ludique, avec des mots fléchés. Chute verticale de l'absentéisme. Et cette recherche pratique du mot juste est plus adaptée comme contrôle dans l'enseignement technique où le vocabulaire professionnel est un peu différent du registre quotidien et apparaît comme une garantie de compétence à un employeur. Mais ces petits jeux innocents peuvent aussi se pratiquer d'autres manières. Ainsi, la découverte d'un dictionnaire de rimes réserve en classe de belles heures de trouvailles inattendues. En publicité encore. Et si savoureuse qu'on n'aura plus envie de sécher ces cours-là. Alors voilà la recette. Choisir et photocopier, dans ce dictionnaire imprévu et merveilleux, une ou deux pages différentes par élève. Et ces gamins et gamines qu'on taxe parfois d'analphabétisme auront vite fait de s'inspirer de Brassens qui fit joyeusement rimer fesses avec confesse. Quel souvenir et quelle rigolade! Et une pensée émue à Adil qui nous ébahit tous et toutes, collègues comprises, en nous déclamant paisiblement des maîtres et des maîtres d'un poème d'animation de sa composition pour le salon de coiffure de notre établissement. Et en musique, s'il vous plaît, à la mode guinguette, comme on dit maintenant, en alexandrin et en octosyllabes. Ses camarades m'ont donné de ces bonnes nouvelles par la suite. Il paraît qu'il a fait un tour chez Zebda. Promotion réelle ou rêvée, il l'aurait bien mérité. Lui qui ne disait pas un mot en classe et qui était considéré comme un élève mal orienté, au résultat désespérant dans presque toutes les matières. À partir de cette animation presque improvisée et composée en classe, il est devenu brillant partout. Je n'ai hélas plus l'énergie de courir les scènes de slam où j'avais espéré le retrouver. Mais je ne me fais pas de soucis. Un talent pareil, ça ne se perd pas. Bravo Adil.
Tu fais l'amour assemblage, gravé sur du papier jauni.
J'attends qu'un jour Adil vienne me présenter ses enfants, comme a fait Anthony il y a quelques mois. En descendant d'une voiture dont je ne vous précise pas la marque, ça me vaudrait des reproches d'avoir abandonné la révolution. Car je le confesse, j'ai formé quelques PDG qui sont restés très simples, humains, et affectueux. Je ne crois pas qu'ils aient besoin de DRH sans scrupules. Ils n'ont pas oublié d'où ils venaient, puisqu'ils n'ont pas oublié nos fous rires. On peut très bien réussir en passant par le lycée professionnel, si élèves et profs ne sont pas étouffés par les effectifs et les horaires, et découragés par des équipements inadaptés et des transports épouvantables. On peut très bien réussir, car les jeunes nous insufflent la foi dans leur réussite, si nous avons les moyens de les écouter et d'y répondre. Quel parti politique nous entendra ? Je vous remercie de votre écoute et vous dis à la semaine prochaine. Je vais essayer de vous faire le podcast. Et je vais vous mettre maintenant une chanson d'Anne Sylvestre, une de ses plus belles et terribles chansons.
C'est une maison douce, une maison de bon aloi, juste ce qu'il faut de mousse répartie aux bons endroits. Assez de murs pour connaître une chaleur bien à soi, et ce qu'il faut de fenêtres pour regarder sans effroi. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Ouvrait parfois sa porte à ceux qu'elle choisissait. La serrure n'est pas forte, maison, tu n'as pas de clé. Mais avec sa confiance, jamais elle ne pensa qu'on pût user de violence pour pénétrer sous son toit. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Advint qu'un jour de malchance, une bande s'approcha. On sonne à la porte, on lance des coups de pied, ça et là. À plusieurs, on s'encourage, on prétend qu'elle ouvrira. Et commence le saccage, la porte, on l'enfoncera. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Sauvagement, ils pénètrent, dévastant tout devant eux. Ils obligent les fenêtres à s'ouvrir devant le feu. Avec leurs couteaux, ils gravent des insultes sur les murs et s'en vont faisant les braves quand tout n'est plus que blessure. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. La maison depuis ce crime n'a plus d'âme ni de nom. Mais elle n'est pas victime, c'est de sa faute, dit-on. Il paraît qu'elle a fait preuve d'un peu de coquetterie avec sa toiture neuve et son jardin bien fleuri. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. D'ailleurs, une maison sage ne reste pas isolée. Celles qui sont au village se font toujours respecter. Quand on n'a pas de serrure, il faut avoir un gardien. C'est chercher les aventures que de fleurir son jardin. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. Passez par la route et si vous avez du cœur, vous en pleurerez sans doute, c'est l'image du malheur. Mais rien, pas même vos larmes, ne lui portera secours. Elle est loin de ses alarmes, elle est fermée pour toujours. Non, non, je n'invente pas, mais je raconte tout droit. J'ai raconté l'histoire de la maison violentée. C'est pas pour qu'on puisse croire qu'il suffit de s'indigner. Il faut que cela s'arrête, on doit pouvoir vivre en paix. Même en ouvrant sa fenêtre, même en n'ayant pas de clé. Non, non, je n'invente pas, moi je dis ce que je dois.